Bonjour à toutes et à tous et merci de l'attention que vous portez au podcast L'Aventure des Récits depuis ses débuts.
À la suite de l'interview que Vanessa Burig, fondatrice des éditions Akasha, biographe et photographe, m'a accordée dans l'épisode précédent, l'épisode 205, qui s'appelle « Écrire le livre de sa vie ». Je vous propose donc que l'on se penche de nouveau sur cette question de la biographie et en particulier sur l'activité de biographe. Qui n'a pas en tête et dans le cœur le souvenir d'un être cher disparu? Un être dont on a le sentiment qu'elle est partie avec ses secrets. Alors, parfois on cherche dans des cartons, on fouille pour trouver une lettre, pour trouver une photo, ou même un parfum pour nous ramener une présence. Et parfois, on regrette de ne pas avoir saisi certains instants par l'image, par du texte, de ne pas avoir questionné, de ne pas avoir écrit. Finalement, de ne pas avoir aidé l'autre à se raconter et de l'avoir laissé partir sans livrer une part de son essentiel. Certains ont le désir de raconter leur vie ou d'un événement particulier de leur vie et ont les ressources pour. Alors ils le font seuls et créent leur autobiographie. D'autres ont le désir de le faire mais ne savent pas comment s'y prendre. Et d'autres encore, par pudeur, préfèrent conserver leur histoire intime. Aujourd'hui, vous l'avez compris, sur ce pouce du jeudi, nous allons de nouveau parler de biographie. En effet, le biographe va aider les personnes qui souhaitent se raconter, qui veulent écrire le récit de leur vie et qui ont besoin d'un professionnel ou de quelqu'un qui a les compétences pour les accompagner dans leur projet. Ce qui est très intéressant avec la biographie en ce moment, c'est qu'il y a une sorte de renouveau d'un métier qui est finalement un très très vieux métier. Ce renouvellement est celui des formes que prennent ces récits de vie grâce au numérique, grâce aux possibilités que nous donnent le numérique et Internet. Une biographie peut évidemment prendre la forme d'un livre classique, mais également être agrémentée d'images ou de sons, tel que le propose l'album sonore des éditions Akasha, dont Vanessa Burig nous a parlé dans l'épisode précédent. Beaucoup de personnes réfléchissent aux nouvelles formes, aux nouveaux formats des biographies. Et on peut imaginer toutes sortes de créations avec des objets, avec des éléments de la nature, avec des parfums, pourquoi pas. Donc beaucoup d'innovations voient le jour et tout reste à inventer dans ce domaine. Vanessa avait aussi beaucoup insisté sur l'aspect polysensoriel, l'importance que revêtait pour elle cet aspect polysensoriel. Et c'est particulièrement intéressant parce que le fait d'évoquer de plusieurs sens, de faire appel à plusieurs sens pour raconter, permet de faire vivre la présence de façon beaucoup plus ténue, de beaucoup plus intime, beaucoup plus familière, en retrouvant par exemple le grain de la voix d'un être proche disparu, en retrouvant des objets par le toucher, en retrouvant des photos. Alors je vous propose que l'on se penche sur trois questions essentiellement. La première, pourquoi faire appel à un biographe? Ensuite, comment se déroule un accompagnement pour une biographie? Et puis, quelles compétences doit acquérir un biographe? Je pense qu'il faut avoir conscience que les bienfaits de la biographie concernent non seulement celui qui raconte sa vie, que l'on peut appeler le narrateur ou la narratrice, mais également celui qui reçoit la biographie, le lecteur, la lectrice ou l'auditeur. Évidemment, souvent, lorsqu'on décide de mettre en route un récit de vie, c'est que l'on a largement vécu. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. Il existe des biographies et même des autobiographies de gens très jeunes. Mais on peut imaginer que ce sont souvent des personnes âgées qui vont faire appel à des biographes. Cette notion de personne âgée est assez relative, mais ce que j'entends par là, c'est des personnes qui ont un vécu à raconter. Et en ce qui concerne les personnes âgées, le premier bienfait, il me semble, c'est que cela peut permettre à une personne de rompre avec sa solitude et de renouer avec une certaine vie sociale si celle-ci a été amoindrie. Faire appel à un biographe permet également à une personne de donner du sens à son chemin de vie en le structurant par le récit. Et là, on s'approche de ce que l'on appelle l'écriture thérapeutique. J'aurai l'occasion d'en reparler, et même des pratiques narratives. C'est-à-dire vraiment d'arriver à construire une signification, à construire une identité, à se reconstruire parfois par le récit. Et puis, c'est aussi l'occasion pour la personne qui veut écrire son récit, d'offrir un cadeau inestimable aux personnes auxquelles elle va offrir son récit, à ses descendants peut-être. Alors justement, celui ou celle qui reçoit la biographie, qu'est-ce qu'elle reçoit ? Bien d'abord, elle reçoit une partie de l'histoire familiale, et donc de son histoire à elle. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé de vous dire telle ou telle personne avait un secret dans ce domaine-là, avait quelque chose à me dire qu'il ou qu'elle ne m'a pas dit. Et parfois, ça manque tellement dans une histoire de famille qu'on sait à quel point les secrets peuvent se transmettre de génération en génération et provoquer surtout les secrets inavouables, les drames ou des questions qui n'ont pas été résolues et rester comme ça, de génération en génération, comme des douleurs. Voilà. Parfois, il y a des gens qui ont l'impression de porter sur elle des poids qui ne leur appartiennent pas. Donc ça permet à celui qui reçoit aussi de donner un sens à son histoire dans une lignée. C'est ce que l'on peut retrouver par le biais d'un arbre généalogique. Celui qui reçoit également non seulement une histoire, mais des valeurs. Et il me semble que c'est très important. Et puis une présence. Une présence qui peut devenir de plus en plus précieuse lorsque la personne a disparu. Alors comment se déroule un accompagnement pour une biographie ? Vous vous en souvenez peut-être, Vanessa Burig, dans l'épisode précédent, l'épisode 205, « Écrire le livre de sa vie », nous a dit, et ça me paraît fondamental, que lorsqu'elle démarre une biographie avec un client, elle n'est pas dans un souci de véracité historique. Ce n'est pas le lieu. Une biographie n'est pas le lieu de l'exactitude. C'est le lieu de l'intime de la personne qui raconte. C'est-à-dire qu'elle va raconter son histoire, donc sa vérité, ses vérités, et que c'est ça qui est important. Parfois, il y a des gens, lorsqu'ils lisent une autobiographie, ils vont dire « Ah non, mais ça ne s'est pas passé comme ça, il ou elle nous raconte n'importe quoi, d'abord les dates ne sont pas bonnes. » Et je pense que c'est une erreur. Il y a une science qui se veut objective et exacte, encore que, c'est la science historique. Lorsque quelqu'un crée une biographie, veut raconter sa vie, il ne s'agit pas pour lui de raconter sa vie comme si c'était un événement historique qui ferait sens dans une chronologie de l'histoire du monde. Il s'agit de dire ce qu'a été sa vie. Donc non seulement les faits, ce qui s'est passé, mais aussi la façon dont il ou elle a vécu ces événements, la façon dont elle a perçu d'autres événements qui sont peut-être des événements communs, qui sont peut-être justement des événements historiques vus par un ensemble de personnes. Mais on voit bien que même lorsqu'il se passe quelque chose, on n'a pas du tout les mêmes façons de percevoir ces choses. Alors forcément, lorsqu'on accompagne quelqu'un pour une biographie, il faut avoir conscience que cet accompagnement va être singulier, ne ressemblera à aucun autre accompagnement. Alors, on peut pourtant en dégager quelques grands principes, quelques grandes lignes. Il va y avoir la rencontre, la première rencontre, qui permet de faire connaissance, qui permet au biographe de comprendre ce que la personne veut raconter, pourquoi elle veut le raconter, pour qui elle veut le raconter, et puis comment elle veut le raconter. Le biographe va ensuite établir un planning. Il va lui falloir gérer du temps, rester le maître du temps dans cette parole qui peut parfois déborder ou qui peut parfois être difficile. Ensuite, la façon dont ça se passe, dont la personne raconte sa vie, peut être très différente. Elle peut écrire, elle peut parler, être enregistrée, être filmée. Ça dépend vraiment du lien qui s'établit entre le biographe et son client. Enfin, lorsque le récit sera produit, il doit être validé par la personne et le biographe doit pouvoir apporter des corrections si nécessaire. Alors, je vous disais qu'on pouvait également s'interroger sur les compétences que doit avoir un biographe. Je m'aperçois là, en vous parlant, que je parle de métier, mais je pense que, oui, c'est un métier qui s'apprend. Il y a des formations pour, vous pouvez en trouver très simplement sur Internet. Mais je pense qu'on peut aussi être biographe dans un moment donné, c'est-à-dire ne pas forcément en faire une activité, mais avoir envie d'accompagner une personne qui nous est proche à écrire son récit, sans en faire forcément une profession. Alors pour cela, il faut quand même avoir des compétences de base, des compétences fondamentales. La première, c'est l'écoute, et ce que l'on appelle l'écoute active. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, en ce qui me concerne, c'est une chose à laquelle je suis très sensible en ce moment. Lorsque quelqu'un nous raconte quelque chose, la plupart d'entre nous, très grande majorité, on n'écoute pas ce que la personne est en train de dire. Parce qu'il se passe quelque chose dans notre tête qui va être qu'on va rattacher de façon inconsciente, de façon automatique, ce que dit la personne à nos propres expériences. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit « Quand tu parles à quelqu'un, n'oublie pas qu'il ne t'écoute pas. » Vous imaginez à quel point c'est important pour moi en ce moment qui vous parle derrière ce micro. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans votre tête en ce moment même. Je suis sûre que depuis le début de cet épisode, vous avez pensé à plein d'autres choses qu'à ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pas grave, c'est même génial. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se construit dans votre esprit. Et ça, donc, c'est un phénomène tout à fait naturel. Le problème, c'est que lorsqu'on est biographe, il faut avoir conscience de ça pour pratiquer une écoute qui est différente et qui s'appelle l'écoute active. C'est-à-dire s'entraîner pour ne pas filtrer ce que dit la personne que l'on écoute par des biais, ce qu'on appelle des biais, par nos propres représentations, par nos propres projections. Je vous donne un exemple. Si la personne est en train de nous parler de la naissance de son premier enfant et qu'elle nous parle d'une difficulté et que cette difficulté, nous l'avons nous-mêmes éprouvée à la naissance de notre premier enfant, peut-être que ce mécanisme naturel de notre esprit va faire que l'on va se souvenir de nos propres émotions et ne plus être à l'écoute de la personne qui est en face et qui sont peut-être très différentes des nôtres. Donc ça, c'est vraiment un entraînement essentiel, l'écoute active, lorsque l'on veut accompagner une personne à écrire le récit de sa vie. Ensuite, il faut également être bienveillant, c'est-à-dire avoir la capacité à mettre l'autre à l'aise. Parce qu'on va entrer dans un territoire qui est celui de l'intime. Donc il faut beaucoup de précautions, d'empathie, de sens de l'adaptation pour cela. Et puis bien sûr, une maîtrise de la langue dans laquelle les textes sont écrits, si il y a texte. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir également besoin d'une construction linguistique, voire grammaticale ou orthographique de leur texte. Alors on peut ajouter une bonne gestion du temps. Et bien sûr, vous savez que le thème m'est cher, des compétences d'entrepreneur. Alors je ne vais pas me lancer là dans les faits, dans l'épisode 204, pour le statut juridique et fiscal des auteurs indépendants. Mais rapidement, biographe entre dans la catégorie de ce que l'on appelait autrefois être écrivain public, que l'on appelle désormais écrivain conseil. Alors, qui englobe beaucoup d'autres formes d'écriture que l'écriture de vie ou l'écriture artistique. Ça va beaucoup plus loin. Mais lorsque l'on veut être biographe, on peut donc s'inscrire comme une profession libérale non réglementée d'écrivain public. Généralement, le statut choisi, c'est celui de la micro-entreprise dont je vous ai déjà parlé. Donc, vous le savez, vous pouvez retrouver l'article connexe à ce pouce du jeudi qui s'appelle « Raconter sa vie, faire appel à un biographe » sur le blog de devenirauteur.com. J'espère que ce pouce du jeudi vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine interview. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et à très vite sur l'aventure des récits.